L'Évangile pour le couple.
L'Évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Maud, nous continuons cette longue série sur la mission et sur l'évangélisation, qui est un appel qui est au cœur de chaque couple chrétien. Et nous avançons sur un point qui est important, mais qui est pourtant débattu. Pourtant, l'Église est très claire sur l'objectif, c'est la mission vise la conversion au Christ. Voilà. Et que cette conversion de nos interlocuteurs, d'abord bien sûr du missionnaire lui-même, mais aussi de nos interlocuteurs, est fondamentale. C'est pas simplement un dialogue entre des personnes d'avis différents. Ça vise la conversion au Christ. Et donc pour cela, Maud, nous allons commencer par un texte d'évangile, comme d'habitude, l'évangile de Luc au chapitre 24.
Jésus leur dit, « Telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est dit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures, et il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le troisième jour. Et qu'en son nom, la conversion et le pardon des péchés soient proclamés à toutes les nations. De cela, vous êtes témoins. »
Donc la question... La mission du Christ, elle est extrêmement claire. Ça doit, l'annonce, la mission d'annoncer le Christ qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité, doit conduire à la conversion et au pardon des péchés. L'annonce de l'Évangile est extrêmement claire dans ce sens.
Oui, c'est vraiment l'appel du Christ, c'est que l'Évangile va, en touchant le cœur de la personne qui reçoit l'annonce, portée à la conversion. Mais en fait, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot conversion, Alex. Est-ce que tu peux nous aider à rentrer dans ces données de la conversion? Qu'est-ce que c'est la conversion?
Alors,
d'un cœur?
La conversion, d'abord, c'est l'adhésion pleine et sincère au Christ, la reconnaissance qu'il est vraiment le Fils de Dieu et le Sauveur de l'humanité et le Sauveur de ma vie. D'abord, la conversion, c'est Jésus me sauve. Et après, je vais découvrir, au fur et à mesure, combien il sauve évidemment l'ensemble de la communauté. Mais c'était d'abord cette rencontre personnelle. Même si jamais cette rencontre est progressive, chaotique, pas forcément immédiate, chacun peut suivre effectivement son propre chemin, mais il doit conduire à une foi intégrale, radicale, c'est-à-dire sans limite ni délai. C'est pas sous condition. Et qui déclenche... Cette foi, cette adhésion, déclenche à ce moment-là un processus dynamique et permanent pour l'existence entière, qui permet un changement du cœur et qui permet une libération et une transformation de nos vies. Voilà, c'est cette conversion qui conduit à ce moment-là à un processus de changement et qui fait passer, dit la parole, passer d'une vie selon la chair à une vie selon l'esprit.
Oui, alors je pense qu'on peut reprendre aussi cette image de la conversion avec ce texte de Jean-Baptiste qui dit toujours qu'il a proclamé un baptême de repentir pour la rémission des péchés. Pourquoi est-ce que le repentir est si important? Le repentir, en hébreu on dit teshuva, c'est vraiment le retournement du cœur. C'est-à-dire que c'est comme une chaussette qu'on prend à l'envers et qu'on remet dans l'autre sens.
Merci pour la chaussette, tu nous compares à des chaussettes.
Non, mais ça veut dire quelque part que le cœur va se réorienter vers le Christ, se tourner vers le Christ et tout va prendre un autre aspect. Et à ce moment-là, en se retournant vers le Christ, effectivement, face à la lumière, apparaît le péché, apparaît la souffrance, apparaît la discorde dans nos cœurs. Et à ce moment-là, il va y avoir une conversion, c'est-à-dire un retournement qui fait qu'on peut mettre à plat devant le Christ la difficulté, les souffrances, les péchés, les limites, etc. que nous avons en nous.
On va revenir après un peu plus tard sur le processus de la conversion. Mais en tout cas, l'annonce et l'invitation au repentir est donc indissociable de la mission d'évangélisation. Comme le dit l'évangile de Marc, le temps est accompli, dit l'évangile, et le royaume de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Donc les deux sont profondément associés. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Donc je ne peux pas croire à l'Évangile et ne pas me convertir.
Et je ne peux pas me convertir sans qu'il y ait un sens, c'est-à-dire l'adhésion à l'Évangile.
Je ne peux pas annoncer l'Évangile sans forcément, pour qu'il adhère à l'Évangile, pour qu'il y croie, sans que ça soit associé à la conversion. Sinon, bah, c'est une discussion de salon. Voilà. Alors, chose importante, ça nous avons mot de focaliser sur l'expérience de la conversion, mais l'important également de focaliser, puisqu'on est là pour l'Évangile pour le couple, que c'est vrai et particulièrement vrai également pour le couple.
Oui, particulièrement par le couple, il y a aussi une conversion à vivre dans notre amour conjugal. On a dit et redit comme il était difficile d'aimer et de se savoir aimer et d'être dans une justesse dans notre relation conjugale. Il y a beaucoup de blessures, il y a des guérisons à recevoir, etc. Le Christ vient nous sauver dans cette expérience-là, directement, parce qu'il est sauveur et ce n'est pas un mensonge que sa présence change les choses. Et cette transformation s'accomplit aussi par la reconnaissance de notre péché mutuel et de nos blessures mutuelles, pour qu'on puisse à ce moment-là accueillir la miséricorde de Christ et rentrer dans une dynamique de conversion et de guérison. C'est-à-dire que nous n'arriverons à sortir, si je puis dire, de cette impasse dans laquelle nous sommes que par cette reconnaissance de nos limites, de nos incapacités, qui permet au Christ d'agir.
Voilà. Alors, sur cette question de la conversion, il faut quand même ne pas... Vous êtes bien rendu compte qu'on n'est pas tellement langue de bois et langue de buis. Et donc, à un moment, c'est vrai qu'à un moment, Maud, cette question aujourd'hui dans l'Église, parfois, elle fait débat. Voilà. Et il y a un courant, bon, à l'extérieur de l'Église, on peut comprendre qu'un certain nombre de personnes nous réfutent le fait de vouloir conduire à la conversion. Mais bien plus grave, d'ailleurs, reconnaissent les papes, il y a tout un courant à l'intérieur de l'Église, si, sous prétexte d'une interprétation de Vatican II, qui disent « mais non, c'est fini le temps de la conversion, c'est voilà ». Et donc ça génère un somme d'écueils, même parfois de divisions, etc. Peut-être moins aujourd'hui, mais quand même, c'est un courant qui existe. Alors c'est pour cela que la vie d'Alex et Maud n'a absolument aucun intérêt. L'important, c'est quel est le magistère de l'Église. C'est pour cela, Maud, que nous pouvons nous appuyer sur une parole très forte de Jean-Paul II, toujours dans l'encyclique « La mission du Christ rédempteur ».
L'appel à la conversion est perçu, par certains, comme un acte de prosélytisme. On dit qu'il suffit d'aider les hommes à être davantage hommes ou plus fidèles à leur propre religion, qu'il suffit d'établir des communautés où règne la justice, la paix, la solidarité. Mais on oublie que tout homme a le droit d'entendre la bonne nouvelle afin de réaliser pleinement sa vocation, pour répondre au désir inconscient et ardent de tout homme et de toute femme. À la manière, on pourrait rajouter Alex, de la Samaritaine, lorsqu'elle supplie le Christ en lui disant « Donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif. »
Voilà. C'est la conviction profonde de chaque missionnaire, de chaque chrétien, que tout homme qui est à l'image de Dieu, tout couple qui est à l'image de Dieu en tant que couple, aspire profondément, même s'il ne le sait pas, à connaître le Christ. C'est comme des gènes, c'est comme vous me mettez, moi, à essayer de vivre au fond d'un bocal ou d'une piscine, et bien je vais avoir qu'une cesse que de vouloir remonter à la surface pour pouvoir respirer. De même, si vous prenez un poisson et que vous le mettez à l'air libre, et bien il n'a de cesse que de retrouver le milieu aquatique. Et donc, c'est comme cela, nous sommes inscrits, nous avons soif de rencontrer le Christ. Et donc, pour cela, la mécanique est une mécanique de conversion. De conversion, d'adhésion en Christ, de reconnaissance du Christ. Mais nous sommes encore trop nombreux, il y a encore trop nombreux chrétiens qui disent « mais non, on ne doit pas conduire à la conversion ». Et puis même, chose plus grave, même qui remettent en plus des questions, qui dit conversion, qui a au moins une reconnaissance de son péché, mais en fait, le péché, c'est une invention de l'Église pour culpabiliser les gens. Mais non, Jésus, il nous sauve de quoi ?
Vraiment de notre péché fondamental, de notre incapacité d'aimer. On en a largement parlé, Alex, dans les précédentes émissions. Mais je pense, Alex, il y a aussi une confusion entre conversion et, je dirais, toutes ces images qu'on a gardées dans notre inconscient collectif de maladresse de l'Église par rapport à des missionnaires qui auraient fait, je dirais, une certaine pression à l'occasion.
Manipulation.
Voilà, et de manipulation des consciences, de tous ces baptêmes forcés qui ont traîné dans notre histoire. histoire et qui reste gravée dans notre, je dirais, dans notre passif ecclésial.
Très culpabilisant.
Hein, voilà.
En tout cas, toute une génération, peut-être de nos parents, de nos grands-parents, qui effectivement sont très marqués peut-être par une attitude qui était une attitude un peu dure. En tout cas perçu comme dur.
Oui, un peu triomphaliste, un peu systématique. Ou plutôt que de chercher l'adhésion des cœurs, on était plus dans une démarche sociologique de mise en règle des choses ou de succès apostolique un peu superficiel. Bon, on sait très bien que tout ça n'est pas juste. Mais il faut nettoyer ce terme de conversion, de cette idée d'imposer une religion. Il ne s'agit absolument pas de ça. Il s'agit bien de faire jaillir dans le cœur cette étincelle qui fait qu'on va enfin trouver le sauveur de nos vies, l'amour de nos vies, le Père de toute miséricorde qui va nous donner l'amour que nous cherchons de partout et dans des comportements parfois tellement éloignés de ce qui nous fait du bien. Et dans cette retrouvaille, si je puis dire, avec le Père du ciel, à ce moment-là, notre cœur va pouvoir retrouver son oxygène, sa vie, son énergie. Voilà ce qu'est la conversion. Et la religion est loin de ça.
Voilà. Et pour vraiment accueillir cette démarche fondamentale, centrale, évangélique de la conversion, je pense, Maud, qu'il y a finalement une relecture à faire de qui est le Christ. Le Christ, ce n'est pas un juge ou un père fêtard. Ce n'est pas un grand frère aîné, branché, sympa. Ce n'est pas simplement un super prophète. C'est pas un dieu évaporé, méditatif, aseptisé à la sauce extrême-orientale ou hindouiste ou bouddhiste, etc. C'est pas un gourou pacifiste, cool et superstar. C'est pas un militant d'ONG écologiste ou altermondialiste. Je veux dire, tout ça, c'est même des choses peut-être très bien ou pas bien. La question n'est pas là. Non. Le Christ, il est l'amour par excellence. C'est son état, c'est ce qu'il est. Et sa mission, il n'y en a pas d'autre, c'est de sauver les hommes. C'est de libérer les hommes. Voilà. Et donc, la conversion au Christ, c'est d'accueillir cet amour du Christ et ce salut du Christ. Et de le faire, c'est plus une théorie, mais de l'accueillir dans sa vie et de le faire fructifier dans sa vie. Alors, à ce moment-là, les choses changent profondément.
On se retrouve dans un instant.
Voilà, Maud, pour continuer cette émission sur la conversion. Voilà. Et nous étions en train de dire qu'il y a vraiment une purification de la mémoire chrétienne à avoir par rapport à la conversion. Et il faut revenir vraiment à la conversion comme le pivot de la vie spirituelle et de la foi chrétienne. Et ne peuvent être recevables des visions qui sont contre la dynamique de conversion, ce qui est contraire à un des fondements même de la révélation évangélique. Mais on va essayer d'avancer un peu plus loin, Maud, par rapport à ce que nous rapportent les écrits apostoliques et les apôtres au premier temps dans les Actes.
Voilà, après le début de la prédication des apôtres s'appuie sur l'annonce de l'évangile pour la conversion au Christ. Et cette conversion s'accompagne d'une vraie, véritable libération intérieure. Les cœurs sont libérés et il y a tout un, je dirais, Alex, des conséquences de cette libération que sont l'expulsion des démons, la guérison des maladies et la libération concrète des liens et des chaînes qui tiennent les gens enfermés dans des souffrances, dans des blessures, dans tout ce qui émane qui est résultat du péché.
Voilà, c'est pour ça que le fruit de la conversion, c'est pas simplement l'adhésion au Christ, ça c'est le passage, mais après ça porte un fruit de vie dans nos vies, personnelles, dans nos vies conjugales, dans nos vies familiales. C'est pour ça qu'une famille qui accueille le Christ, un couple qui accueille le Christ, qui se convertit au Christ, c'est pas simplement un recrutement de plus pour l'Église. À la rigueur, on s'en fout complètement. C'est une famille qui est libérée. C'est une famille qui conduit à un chemin de libération.
Oui, nous sommes esclaves de beaucoup de choses dans nos vies, et on le sait très bien, parce que tous les psychologues, etc., travaillent sur cette libération des choses qui nous tiennent, qui sont liées à notre passé, à nos familles, à notre histoire, à nos psychologies, aux événements de la vie. Si on prend tout ce temps pour relire ces choses-là et s'en libérer, c'est bien qu'on a besoin que le Christ intervienne dans nos vies pour justement rompre ces chaînes qui nous empêchent d'être libres. Et c'est une des premières constatations des jeunes convertis, mais je découvre ce qu'est la liberté. Encore il n'y a pas très longtemps, on a entendu un jeune couple nous le dire. Incroyable ce qu'on découvre, qu'on est libre par rapport aux événements, par rapport à il y a quelques mois, quelques années.
Et cette mission, elle vaut de conduire à la conversion, elle vaut aussi des parents vis-à-vis des enfants. Rappelle-toi, Maud, cette parole qui nous a beaucoup interpellés de notre fille aînée qui, intégrant une école de gestion, revient 15 jours, un mois après, en disant « Merci les parents !» Alors on dit « Mais qu'est-ce qu'il dit ? Pourquoi tu dis que tu as intégré l'école ?» Non, parce que j'ai rencontré le Christ et je me suis rendu compte, et je me rends compte combien je suis libre, parce que je connais le Christ et je vis avec le Christ. Quand je vois l'ensemble de mes camarades, tellement de camarades, et ben je me rends compte qu'ils ne sont pas libres parce qu'ils ne connaissent pas le Christ. Donc c'était pas « Je suis content d'être chrétienne !» Non, je me rends compte que je suis libre parce que je connais le Christ et je vis avec lui. Alors, voilà. Maud, il faut peut-être avancer un peu sur quel est le processus de la conversion.
Voilà.
Alors, qui est toujours avec des chemins de traverse, etc. Mais on peut quand même identifier un certain nombre d'étapes qui sont à peu près constantes et auxquelles sur lesquelles on retourne toujours plus ou moins.
La première étape, c'est ce qu'on disait en première partie de cette émission, c'est reconnaître que le Christ est mort et ressuscité pour nous, pour chacun, et que de ce fait, il nous libère du péché.
Voilà. Et donc, il faut entendre que c'est le Christ est libérateur, Fils de Dieu est libérateur. Et dans cette deuxième étape, à ce moment-là, c'est la perception par l'interlocuteur de l'immense amour de Dieu. Attends, il a fait tout ça pour moi. S'il a fait tout ça pour moi, c'est qu'on perçoit au travers de cet acte, de cette histoire qu'il nous a rapportée, son immense amour pour moi, et aussi sa puissance de libération, parce qu'il m'aime et donc il me pardonne. Et c'est parce que je perçois l'amour et la miséricorde de Dieu que à ce moment-là je peux voir mon péché. Effectivement, les non-chrétiens ont raison de dire « Ouais, c'est vachement culpabilisant l'Église !» Mais on peut voir notre péché parce qu'on a l'amour qui nous saisit et qui nous étreint. C'est l'amour qui nous permet de reconnaître notre péché, d'accueillir la miséricorde de Dieu et donc le salut qui nous libère. C'est par la foi que nous pouvons rejeter le péché qui nous entrave, dit Paul aux Hébreux.
Voilà, donc deuxième étape, accueillir l'amour de Dieu. Troisième étape, recevoir l'Esprit Saint qui est associé au mécanisme de conversion. C'est-à-dire que quand on rentre dans cette conversion où on reconnaît le Christ comme notre sauveur, on reconnaît qu'on a besoin d'être libéré du péché, l'Esprit Saint intervient à ce moment-là pour justement nous donner tous ces dons et la fructification de la vie chrétienne.
Voilà. Ce mécanisme de conversion nous fait rendre compte lucidement, je peux le faire parce que je suis aimé, parce que je suis pardonné, de voir combien mon péché m'a complètement opprimé, m'a complètement tenaillé, et donc je désire la libération. Et c'est là le mécanisme de la conversion. Je veux changer de vie, Seigneur. Je veux t'accueillir pour pouvoir libérer en moi ces forces de vie. Et à ce moment-là, entre guillemets, pour le voyage, le Seigneur nous donne l'énergie, la nourriture, qui est cet Esprit Saint. Faites-vous baptiser au nom de Jésus pour recevoir ce salut. Et vous recevrez alors le don de l'Esprit Saint. Donc, vous voyez, le processus je me convertis, je reçois le baptême du Christ et je reçois l'Esprit Saint. Alors, ce sont les mécanismes fondamentaux, mais bien sûr, on peut très bien avoir été baptisé peut-être il y a 20, 30 ou 40 ou 50 ans, mais jamais avoir saisi combien, quelle est cette richesse de ce baptême et le découvrir maintenant. Mais voilà le principe, les grandes étapes évangéliques.
Et la fructification de cette conversion va se traduire dans mon comportement et dans ma vie, où je vais à ce moment-là rentrer dans une vie chrétienne qu'on appelle digne du royaume, et là où le Seigneur nous appelle effectivement à conformer nos comportements. Donc, entre guillemets, la vie morale, comme on peut l'appeler, chrétienne, n'est que la fin du processus. Elle vient quand on a déjà enclenché ce processus, et à ce moment-là, on peut progressivement rentrer dans une conformité de la foi. D'où l'importance, dans notre annonce, de ne pas annoncer les conséquences. On annonce le cœur de la foi et pas les conséquences de la foi.
La vie morale, ce que dit les apôtres, vous allez à ce moment-là mener une vie digne, car il vous appelle en son royaume, il nous y transfère. Mais ceci n'est possible, cette vie digne, cette vie morale, selon les desseins, la lecture qu'en fait le Christ et après tout le magistère de l'Église. Par rapport à l'incarnation d'une vie sainte, selon le dessein du Seigneur. Mais c'est possible à partir de ce processus initial. Et très souvent, on l'a complètement oublié. Et on oublie cette démarche fondamentale de conversion. S'il n'y a pas le moteur de base, comment voulez-vous qu'à un moment, ça porte du fruit dans ce qui est dit en menant une vie digne, dit Paul.
Voilà, c'est pour ça que la façon dont la vie est conforme à l'évangile ou pas et à ce que l'Église annonce par rapport à la vie morale est plutôt un indicateur de la vie intérieure des couples. Quand on vit vraiment avec le Christ, les choses deviennent évidentes au niveau de la vie morale. Si jamais on n'a pas vraiment rencontré le Christ, alors notre vie n'est pas en adéquation avec ce qu'annonce l'Église. C'est bien qu'il y a un problème de vie intérieure et de vie spirituelle. La vie morale n'est qu'un indicateur. Donc, ce qui est important dans ce processus de conversion, c'est d'appeler les baptisés à reconnaître le Christ comme leur sauveur, le Christ comme l'amour de leur vie, et qui va leur permettre de faire ce travail de conversion permanente. Parce qu'on a oublié, Alex, de le redire, la conversion se vit en permanence.
Bien entendu.
Il y a bien sûr une conversion initiale qui nous mène au Christ.
Un moment fort, une bascule, un moment d'adhésion historiquement, etc. etc. Et puis après, c'est un processus permanent. Mais l'important, c'est vraiment... accueillir la foi sans se reconnaître pécheur est impossible. Le Christ est sauveur. Par lui, la rémission des péchés, car il détruit la mort et nous sauve du péché. C'est tout l'enseignement de Paul dans les actes et dans les épîtres.
On peut les relire parce qu'il y a un grand travail sur l'annonce du salut.
Voilà. Et il est dit, ce salut n'est en aucun autre que le Christ. En disant, ben vous savez, bon, il y a des chemins, bien sûr les chemins de la liberté, des chemins des uns et des autres. Mais il est clair de dire, le salut est dans le Christ, il n'en est dans aucun autre. Et il est donné définitivement. Donc c'est ça, c'est une source de grande espérance.
Voilà, c'est pour ça que quand on veut aider, entre guillemets, un couple à trouver le chemin du bonheur, nous devons les inviter à faire l'expérience de la conversion au Christ. C'est-à-dire qu'on peut parler de beaucoup de choses qui concernent la vie de couple, mais si on ne va pas au cœur du problème, qui est la rencontre avec le Christ, alors on risque de rester autour du sujet, si je puis dire. Le point névralgique, c'est vraiment la rencontre avec le Christ et de se nourrir vraiment de la présence du Christ dans nos couples.
Voilà. Et pour cela... pour essayer de conduire à la conversion, et à Sama, c'est là notre mission, notre interpellation, nous devons bien sûr en faire d'abord nous-mêmes l'expérience, et puis essayer de conduire, d'inviter nos interlocuteurs à la vivre avec ce moteur qui est cette compassion. Qui est cette compassion pour que nos interlocuteurs puissent vivre cette même expérience de libération. Et puis, cette invitation aussi de nos interlocuteurs à frapper à la porte du Christ, sachant que la parole est claire, à qui frappe, on ouvrira. Je suis à la porte des brebis, celui qui entrera par moi sera sauvé, il trouvera son pâturage. Voilà, Maude.
Oui, et justement, ce qui peut nous permettre de conclure cette partie, c'est de dire que justement, Paul, lorsqu'il a fait cette expérience de Christ, est rentré dans un processus de conversion pour lui-même. On peut relire le passage qui le concerne. Et une fois qu'il était à Damas, qu'il a été soigné, guéri, enseigné par les disciples du Christ qui étaient là-bas, il s'est mis aussitôt à annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire que la mission, elle découle bien d'une expérience de conversion.
Voilà, en tout cas, cette profonde expérience de conversion que nous invitons, nous sommes tous bien entendu concernés, et puis de pouvoir également, dans le cadre de vos missions, de vos engagements, de conduire d'abord vos enfants, parce que c'est d'abord auprès d'eux que nous sommes engagés et envoyés, mais aussi votre entourage, de pouvoir les conduire à la conversion et à l'adhésion au Christ. Il n'y a pas plus grande joie pour des couples, pour des parents, que de voir leurs enfants et certains membres de leur entourage justement rejoindre le Christ par une conversion et un émerveillement de cet amour de Dieu qui transforme toutes nos vies et qui sauve nos vies. Voilà, soyez bénis.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. The extravagant love of God.